Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le projet de loi immigration arrive en commission aujourd'hui au Sénat. Il sera débattu au sein de la Haute Assemblée dès le 28 mars. Un texte vivement critiqué à gauche. Illustration dans votre édition avec le député Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. Le texte du gouvernement fait son retour à l'Assemblée nationale avant un possible vote jeudi. Nous écouterons le député Modem, membre de la commission mixte paritaire, Philippe Vigier. Face à l'opposition suscitée par cette réforme et l'incertitude sur l'issue du vote, le député PCF, secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, évoque une semaine historique, vous l'entendrez. La Coupe du monde de football 2030, le roi Mohamed VI annonce que le Maroc se joint à la candidature de l'Espagne et du Portugal. C'est une première des textes de la poétesse libano-palestinienne Maizi-Adeh, traduit en français. Un livre intitulé « Ténèbres et lueurs » aux éditions L'Harmattan. Il est préfacé par le traducteur Samir Belhamra, que nous écouterons. Le projet de loi « Contrôler l'immigration, améliorer l'intégration » en commission des lois dès ce mercredi. Il sera débattu au Sénat à partir du 28 mars, puis à l'Assemblée nationale. Comme pour les retraites, le gouvernement a besoin de la droite, mais c'est loin d'être gagné. Un texte vivement critiqué à gauche, le député Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou.
On a encore un texte, c'est peut-être le 20e en 30 ans, sur l'asile, sur l'immigration, et toujours cette fâcheuse tendance à faire des nouveaux arrivants, des boucs émissaires, ou pire, des délinquants. Donc moi, je vraiment bats cette affaire en brèche. On a besoin de l'immigration, on a besoin de la richesse que ça peut représenter. Il est complètement vain, inutile, idiot de prétendre mettre des murs alors qu'il y a des personnes qui échappent ou qui cherchent à échapper au pire, qui cherchent à sauver leur famille. Donc on doit organiser l'accueil. Voilà. Et quand on organise l'accueil, le retour d'expérience, c'est que ça fonctionne. Donc organisons l'accueil. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce gouvernement est timide, en fait, parce que, pour le coup, on a besoin de régulariser. Il y a aujourd'hui des personnes déjà sur le territoire qui vivent l'enfer, qui servent malgré eux de dumping social. Hein, pour caricaturer, c'est dans le bâtiment ou l'hôtellerie-restauration. Des gens qui, n'ayant pas de droits, sont moins payés et ça fait, malgré eux, évidemment, dumping social. Et surtout pour eux, c'est un cauchemar. Donc en fait, régularisons, point, régularisons, organisons la régularisation. Ces personnes doivent pouvoir vivre dignement, accueillir leur famille, payer des impôts, choisir leur vie. C'est ça que nous souhaitons pour l'ensemble des personnes sur le territoire. Et voilà ce qu'on va défendre.
L'intégration par le travail, c'est justement l'objectif affiché par le gouvernement avec ce texte porté par Gérald Darmanin de l'Intérieur et Olivier Dussopt.
Moi, très clairement, je pense qu'on doit accueillir les gens pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles font. Voilà. Si une personne elle est en demande d'asile et qu'elle remplit les critères, eh bien on l'accueille et l'histoire du travail est parfaitement secondaire. Mais d'ailleurs, permettons aux demandeurs d'asile de travailler, parce que c'est certain que pour pouvoir apprendre la langue et rencontrer du monde, eh bien, il vaut mieux travailler et avoir des collègues que être reclus dans son CADA loin des centres-villes. Non, mais je pense qu'il faut vraiment assumer. Voilà, la régularisation est un droit humain, voilà, une question de dignité. La France ne fait pas du tout sa part en matière d'immigration et qu'on arrête avec ces lois plus dures que la précédente quand on n'a même pas fait le bilan de celle d'avant. Voilà. On a un sujet majeur, par contre, c'est l'enfermement des enfants. Il faut qu'on en finisse avec cette abomination. On est condamné régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme sur le sujet. Arrêtons d'enfermer les enfants en centre de rétention.
Vous craignez un durcissement de ce texte lors de son passage au Sénat ?
Je crains un durcissement, je crains un pourrissement et je crains surtout qu'on passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a eu la pandémie et on sait qu'au passage, on a pu compter sur les premiers de corvée. Souvent, c'est aussi des nouveaux arrivants qu'ils aient des papiers en règle ou non. Et après la pandémie, après la crise, après les difficultés, après un pays qui est en voie de dislocation, c'est déjà brutal de nous proposer de nous voler 2 ans de notre vie alors qu'on aspirerait à avoir un projet rassembleur. Et là, à nouveau, il y a l'idée de brutaliser, de braquer le pays, de le diviser. Vraiment, je pense que ce président rate son mandat. outre le fait qu'il nous fait du tort à tout le monde et qu'il abîme la démocratie, il rate ce mandat, il devrait pouvoir proposer des textes beaucoup plus rassembleurs.
Vous évoquiez la présence d'enfants dans des centres de rétention. Plusieurs élus se sont rendus récemment dans le centre de rétention du Mesnil-Amelot. Ils ont lancé un cri d'alarme. Qu'est-ce que vous demandez à l'exécutif face à ce type de situation ?
J'étais moi-même au Mesnil-Amelot en décembre, exerçant mon droit de visite parlementaire. C'est important. En fait, on ne peut pas enfermer des gens pendant aussi longtemps au seul prétexte qu'ils ne sont pas en règle de manière administrative. Je crois vraiment qu'il faut pouvoir le dire. C'est un enfermement, c'est une prison. Il n'y a pas assez à manger. Il n'y a surtout pas accès aux droits, puisque j'ai rencontré une personne, Richard, qui habitait en France depuis aussi longtemps que moi je suis né, depuis le début des années 80, et qui a été renvoyé en Côte d'Ivoire alors qu'il ne connaît pas ce pays. Il n'a pas pu faire appel de la décision, il n'a pas eu véritablement accès à un avocat, à un juge, et donc on a un vrai problème majeur. C'est une boîte noire, c'est un angle mort de notre République. Voilà. Et donc je crois qu'il faut vraiment traiter cette affaire. Les centres de rétention administratifs ne peuvent plus durer comme ça dans ce pays.
Le député Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. C'était il y a 12 ans, le 15 mars 2011, le printemps arabe gagnait la Syrie. Des manifestants s'étaient rassemblés à Deraa, dans le sud du pays. La répression féroce du régime a entraîné le pays dans la guerre, une guerre qui a fait un demi-million de morts et déplacé des millions de personnes. Une guerre qui a aussi dévasté les infrastructures du pays. Une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites en France. Les mouvements de grève se poursuivent dans les transports, dans l'énergie ou encore chez les éboueurs. Le texte du gouvernement fait son retour à l'Assemblée nationale avant un vote possible jeudi. Une commission mixte paritaire à l'Assemblée doit décider d'un texte final. Elle réunit depuis ce matin des élus des deux chambres du Parlement, 7 sénateurs, 7 députés. Parmi eux, le député MoDem, Philippe Vigier, qui salue le travail mené par les sénateurs.
D'abord, le Sénat a bien travaillé. Vous savez, il y a quelques années, un ancien Premier ministre socialiste voulait supprimer le Sénat, c'était Lionel Jospin. Heureusement que le Sénat était là, et c'est un député qui vous le dit. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de rivalité, au contraire, une complémentarité. C'est ce qu'on doit faire demain, en commission mixte paritaire, où il y a 7 députés, 7 sénateurs, pour sortir un texte sur cette réforme des retraites, qui soit le plus juste possible, qui permette d'assurer le financement, qui permette d'assurer, d'apporter des nouvelles mesures sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, pour les femmes, pour les carrières hachées. Donc, et tout cela est contenu dans le texte. Il y a eu cet enrichissement sénatorial. Et donc, vous voyez, c'est une belle mission, un moment de responsabilisation, mais j'y vais avec enthousiasme.
Vous nous dites que le texte a été enrichi par les sénateurs. C'est un texte équilibré aujourd'hui ?
Oui, c'est un texte équilibré. De toute façon, si on ne fait rien, je vais vous dire les choses. Les Français doivent savoir ça. Si on ne fait rien, c'est 13 milliards d'euros de déficit en plus des 30 milliards que met l'État chaque année. Alors évidemment, ça peut paraître pas beaucoup, 30 milliards d'euros, 50 milliards d'euros, mais vous multipliez chaque année. Et vous avez vu les taux d'intérêt, comment ils sont en train de remonter. Vous avez vu la dette de la France, quelle est ? Est-ce qu'on a le droit de mettre sur la tête de nos petits-enfants, des générations qui viennent, une telle dette ? Certainement pas.
Et comment vous comprenez cette mobilisation populaire, cette nouvelle journée d'action intersyndicale ce mercredi ?
D'abord, je la respecte. Le droit de grève doit être protégé. Et j'observe quand même que beaucoup de manifestations sont faites dans le calme. Donc c'est un signe aussi, me semble-t-il, d'esprit de responsabilité. Après, il y a eu beaucoup d'incompréhension, mauvaise communication, disons-le. On n'a pas été bon. Le gouvernement a été plutôt imprécis sur un certain nombre de questions très importantes, comme la fameuse retraite à 1200 euros. On démarre avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui seraient concernées. Puis en fait, on s'aperçoit au bout du bout que comme ça concerne les carrières pleines, donc à quelques dizaines de milliers. Donc il y a eu, c'est vrai, des moments de mauvaise communication. Pour autant, il y a des vraies avancées. Vous savez, les socialistes, avec la réforme Touraine, est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour les petites retraites ? Non. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour les carrières hachées ? Non. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour aider les femmes ? Non. Dans cette réforme-là, il y a des vraies avancées pour les femmes.
Vous êtes donc membre de cette commission mixte paritaire. Comment elle fonctionne, cette commission ?
Mais c'est très simple. C'est une salle dans laquelle il y a les fameux 7 députés, 7 sénateurs, des collaborateurs qui sont derrière. Et puis on prend le texte de loi et on démarre tout simplement à l'article 1 et on regarde s'il y a des amendements sur chacun des articles et la nature de l'amendement. Et on essaie de se mettre d'accord sur le contenu de ces amendements. Si on n'est pas d'accord, eh bien, ils ne sont pas intégrés. Si on est d'accord, ils sont intégrés dans le texte. Donc on a une capacité demain à écrire la loi. Donc, vous voyez, c'est une chance extraordinaire, c'est une responsabilité importante qui est sur nos épaules, mais c'est une exigence aussi pour le pays.
Écrire cette loi qui sera soumise notamment au vote des Républicains, ce n'est pas encore gagné.
Non, qu'il sera soumis au vote de l'Assemblée et du Sénat. Parce que jeudi matin, les sénateurs vont se réunir et ils vont voter ce texte finalisé. Jeudi après-midi, l'Assemblée va se réunir et devra voter ou pas voter. Voilà, chacun, une fois de plus, à un moment ou à un autre. Et c'est bien, vous voyez, dans la vie politique, c'est un des beaux moments où on doit appuyer sur un bouton, oui, non ou abstention. Eh bien, écoutez, je suis persuadé, je ne doute pas une seule seconde que ceux qui sont attachés au système de retraite par répartition appuient sur le bon bouton.
Le député MoDem Philippe Vigier, membre de la commission mixte paritaire. Sur cette journée de mobilisation intersyndicale et sur cette réforme des retraites, entretien à présent avec le député PCF, secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, qui évoque une semaine historique.
C'est certainement une semaine historique, une semaine décisive, cruciale, parce que jamais une réforme des retraites n'a suscité autant de contestations, autant de rejets dans le pays, et jamais le Parlement n'a été autant bafoué et humilié par des semaines où le gouvernement a tout fait pour contraindre les débats, bloquer les débats, que ce soit au Sénat ou par l'article 47-1. Et donc c'est aujourd'hui que ça va se décider au Parlement. Et je pense que la décision, elle est aussi du côté des députés de droite et centristes qui détiennent une partie de la clé de ce scrutin. Beaucoup de leurs électeurs se mobilisent contre cette réforme des retraites. Il existe dans ce pays une droite sociale, une droite gaulliste. Je ne comprendrais pas qu'ils deviennent demain les porteurs d'eau, les supplétistes, les supplétifs de ce gouvernement. Et donc, s'ils décidaient de s'y opposer, alors se préserverait au moins un avenir dans ce pays. Maintenant, c'est à eux de prendre la décision. Pour notre part, nous continuerons de nous mobiliser, nous utiliserons tous les moyens pour faire reculer cette réforme de toute façon.
Le contexte social, comment vous l'évaluez aujourd'hui en France? Et est-ce que vous anticipez un printemps social particulièrement agité?
Ce qui est sûr, c'est que nous rentrons dans le printemps et j'espère que le soleil va arriver. Mais le président de la République nous promet un hiver glacial à la place de ce printemps. Un climat social très dur, froid, et c'est extrêmement regrettable puisque nous sommes dans une crise, l'Europe est en crise, il y a la crise énergétique, il y a la guerre. Et donc nous n'avons pas besoin de ça. Au contraire, on a besoin de dialogue social, on a besoin de serrer les coudes, d'être solidaire, que la France fasse nation et s'unisse. Or aujourd'hui... on a un gouvernement qui se rend illégitime, avec une réforme qu'il devient de plus en plus. Tout ça ne crée pas le climat nécessaire à affronter ce qui se passe là, en ce moment.
Si la loi était votée, la mobilisation devrait, selon vous, se poursuivre?
Si la loi était votée, les partis de gauche opposés à cette réforme et l'intersyndicale, de son côté, trouveront les moyens de continuer le combat. Nous avons beaucoup de moyens à notre disposition, beaucoup d'outils démocratiques comme le référendum. Ce sera peut-être la solution, le moyen de pouvoir donner la parole et rendre la parole aux Français sur une réforme qui est largement contestée.
Le député PCF, secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. C'est une première. Des textes de la poétesse libano-palestinienne Meziadeh ont été traduits en français. Un livre intitulé « Ténèbres et lueurs » aux éditions L'Harmattan. Il est préfacé par l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et je vous propose d'écouter le traducteur de cet ouvrage, Samir Belhamra.
Meziadeh, c'est une écrivaine palestinienne aux origines syriennes et libanaises. Elle voit le jour à Nazareth, en Palestine ottomane, en 1886. Et elle émigre avec ses parents au Caire, en Égypte, au début du siècle dernier. Ce qu'on peut dire essentiellement sur sa vie, c'est qu'elle a été une pionnière du féminisme arabe, mais surtout de l'humanisme arabe et de la Nahda. C'est quoi la Nahda? C'est le mouvement de renaissance intellectuelle arabe au 19e et au 20e siècle, c'est-à-dire à peu près un peu moins d'un siècle après le début de l'imprimerie dans le monde arabe.
Et ces livres ne sont pas tous traduits en français. Pour quelles raisons avez-vous décidé de faire connaître son œuvre au public francophone?
Aucun des ouvrages de Meziadeh n'avait été traduit auparavant en français. Ce qui avait été traduit, ce sont ses correspondances, les fameuses correspondances qu'elle a entretenues avec Khalil Gibran, qui est l'auteur du Prophète, et qui lui, par contre, est beaucoup plus connu à travers le monde. Meziadeh n'a pas été traduite en français, tout comme les auteurs arabes de la même période, de la Nahda. Très peu ont été traduits. Je me suis documenté sur Internet pour voir lequel d'entre eux avait été traduit. Bien, pratiquement personne. J'ai d'abord commencé par m'intéresser à un des membres qui faisait partie de son salon, qui s'appelait Georges Zeidan, qui était membre du salon du mardi de Meir Ziada. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Voyage en Europe ». Il y décrit son voyage, sa fascination pour l'Europe, notamment pour la France, mais aussi ses angoisses par rapport à l'influence du monde européen sur le monde arabe, déjà au début du XXe siècle. J'ai interrompu cette traduction pour me réorienter beaucoup plus vers Meir Ziada. Meir Ziada, c'est d'abord un souvenir de jeunesse. Elle était au programme de littérature quand j'étais lycéen en Algérie. Et dans le livre de littérature destiné aux élèves de terminale, scientifiques comme moi, en terminale, on étudie l'Anada, la Renaissance arabe, c'est-à-dire le 19e et le 20e siècle. Elle était la seule femme à siéger, si je puis dire, dans cet ouvrage de littérature arabe contemporaine.
Alors pourquoi avoir traduit « Ténèbres et lueurs » qui donc vient de paraître aux éditions L'Harmattan ? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce livre ?
C'est dans ce livre que se révèle pour moi la personnalité de Meir Ziada. Comme le dit d'ailleurs Jean-Marc Ayrault, notre ancien Premier ministre, dans sa préface, c'est ce livre qui nous éclaire le plus sur sa personnalité tourmentée. Meir Ziada, donc, c'est d'abord une fille de la bonne société palestinienne. Ses parents sont des gens instruits, son père est enseignant. Sa mère pouvait réciter par cœur plusieurs répertoires de poésie. Ses parents décident de l'instruire très jeune, elle est fille unique. Elle va être scolarisée, probablement d'ailleurs en langue française, très tôt, à Nazareth, et ensuite chez les visitandines à Ain Tora, je crois, au Liban. Elle se passionne très vite pour les langues étrangères et la littérature, et son premier recueil de textes sera un recueil de poésie, et elle l'écrira non pas en arabe, mais en français.
Et donc, ce livre est constitué de 20 textes qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, et qui sont comme des méditations philosophiques ?
Tout à fait, comme le dit d'ailleurs très bien l'article de L'Orient le Jour au Liban, ils n'ont pas de lien apparent si ce n'est une grande forme d'humanité. Ce sont des textes qui parlent à chacun d'entre nous, « Sois heureux » par exemple, « L'enfant et moi », « Le bal de la vie », « La montre égarée ». Ce sont des textes qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Il y a deux catégories de textes dans « Ténèbres et lueurs ». Il y a des textes qui peuvent intéresser tout un chacun. Il n'est pas nécessaire d'être féru de littérature pour apprécier « Ténèbres et lueurs ». Et puis, il y a une deuxième partie de textes qui sont beaucoup plus introspectifs. Il faut aimer la littérature pour être touché par la sensibilité de l'écrivaine.
Et donc, cette traduction, pour vous, répare une injustice ?
Tout à fait, cette traduction répare une injustice parce qu'au Moyen-Orient, Meir Ziada est une figure incontournable de la littérature et de la Renaissance. Des écoles, des lycées portent son nom, des rues portent son nom. Il est difficile de la comparer à une personnalité française, je dirais peut-être George Sand ou Marguerite Yourcenar ou Madame de Staël pour le salon. Elle était un peu touche-à-tout, sociologue, historienne, poétesse, romancière, essayiste et bien sûr salonnière.
Samir Belhamra, il a traduit le livre de Meir Ziada, Ténèbres et lueurs aux éditions L'Harmattan. Il répondait à Loïc Barrière. La Coupe du monde de football 2030, le roi Mohamed VI annonce que le Maroc se joint à la candidature de l'Espagne et du Portugal. J'annonce devant votre assemblée que le royaume du Maroc a décidé avec l'Espagne et le Portugal de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du monde 2030. C'est ce qu'a indiqué le souverain dans un message lu par son ministre des Sports. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Thiaba Bruni, candidate dans la législative partielle de la 9e circonscription des Français de l'étranger, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h19.